Moi, déjà, le fantasme de l'échec côte à côte, ça m'a posé problème. C'est un titre qui m'a beaucoup attiré le regard, déjà, je ne sais pas toi.
Ouais.
Moi, le fantasme, ça ne va pas avec l'échec. Alors, j'ai regardé la définition de fantasme, la définition d'échec, et je les ai mis ensemble. Moi, je connais la conduite de l'échec. Et,
la conduite de l'échec.
Les gens qui se débrouillent pour toujours tout rater.
Ah.
La peur de l'échec, qui est la même chose que la peur de réussir à l'envers. Ouais. Enfin, c'est comme ça qu'on voit. Après, il y a essuyer les échecs, ce que je connais. Le fantasme de l'échec, ça m'intéressait. Ça m'a étonné le titre, toi pas?
Non, parce que moi j'ai bien. Enfin, je crois, comme j'ai pas vu le spectacle, j'ai dit ce que j'ai cru comprendre. Il me semble quand même que dans le milieu des artistes, il y a un côté un peu fantasmatique de l'échec, de se dire finalement échouer, c'est une forme de reconnaissance, dans le sens où de toute façon l'époque dans laquelle je vis ne peut pas me comprendre, c'est les descendants, c'est, voilà, il y a un côté comme ça où je trouvais ça assez effectivement de se dire c'est une forme de satisfaction de se dire quand on a échoué de toute façon on ne peut pas me comprendre, je suis bien trop en avance, c'est ceux qui viendront après qui découvriront à quel point je suis talentueux, c'est quand je serai mort.
Beethoven était méconnu de son temps, était mal aimé de son temps.
Par exemple, moi je prends beaucoup, il y a beaucoup d'auteurs qui ont été révélés le jour, enfin deux ou trois mois après leur mort, tout d'un coup c'est devenu des auteurs que tout le monde jouait, alors que de leur vivant, il ne se passait pas grand chose pour eux. Quoi.
Pour les comédiens c'est différent, parce qu'il vaut mieux être joué de son vivant que après.
Mieux jouer son truc. Mais par exemple, tu as dit que tu avais beaucoup vécu d'échecs. Par exemple, ça veut dire quoi concrètement pour toi?
Alors, la difficulté, enfin, la spécificité des acteurs, les comédiens qui sont uniquement comédiens, ce qui était mon cas jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est que les échecs peuvent commencer avant d'être engagés, parce que ça m'a fait rire ces mots engagement, etc. Les comédiens qui sont uniquement comédiens, comme je l'étais, dépendent à tous les niveaux. Donc, avant d'être engagés, il faut qu'ils soient engagés. Pour être engagé, c'est pas forcément facile. Une fois qu'on est engagé, mais on est engagé en dernier, je veux dire, la part de création d'un comédien arrive vraiment très tard dans le processus de création d'un spectacle total. On sert à rien. On vient nous chercher à la toute fin. Il faut d'abord qu'il y ait de l'argent, ensuite qu'il y ait un projet qui soit né, ensuite choisir un spectacle quand ça vient ensemble, je sais pas. Là, vraiment, je pars en toute naïveté parce que j'ai jamais fait ça. Donc je suis sur mon étagère, et quand on m'appelle, je m'enlève la poussière, je vais me montrer, on m'engage. Et à partir du moment où on m'engage, je m'engage. Donc je ne suis pas du tout une artiste engagée quand je ne suis pas engagée. Je ne suis pas du tout à vouloir faire des spectacles, à dire je veux jouer ça, donc je vais trouver les personnes. Non, moi j'attends.
Mais du coup, à quel endroit non?
Alors des fois j'attends.
C'est l'échec.
Ben j'attends parce que j'attends. J'attends très longtemps. Des fois, l'échec est dans la durée de l'attente.
Mais c'est un échec, c'est pas simplement. Un échec, c'est quand même quand il y a un but et tu n'atteins pas ce
alors,
but. Ou,
alors, je te rassure tout de suite, j'en connais. Parce qu'une fois que je m'engage, je m'engage des fois mal. Et je me ramasse. Et ça, c'est les processus d'échecs successifs dans les répétitions. Parce que si tu veux, la part de création, enfin tu le sais, la part de création d'un comédien, ça peut être sur une réplique. Sur une réplique, il y a une création. Mais tout le monde s'en fout tellement. Je veux dire, la planète continue vraiment de vivre sans ça. Mais moi, quand quelqu'un parlait de mort, moi, c'est une question de vie ou de mort pour une réplique, parfois. Je suis toujours là. Je ne suis jamais morte encore. Mais pour moi, il y a vraiment une question de vie ou de mort. Quand je rentre en scène, c'est un peu comme une naissance. Et pour moi, la naissance et la mort, c'est la même chose. Mais ça peut paraître un peu bizarre. Mais de même que quand on met un enfant au monde, on lui donne sa mort en même temps, quand on est sur le plateau, ça va mourir. Et il y a déjà l'échec de ça, c'est que ça ne continuera pas. Déjà ça, c'est des échecs tout le temps. Ensuite, dans le processus des répétitions, il peut y avoir des échecs parce qu'on peut avoir des préjugés sur un rôle, des préjugés sur soi-même. En général, j'ai les deux. J'ai un préjugé sur le rôle. Et je fonce dans le tas, j'ai des clichés énormes, donc j'échoue. Parce que, et en principe, je montre d'abord ce que je sais faire, ce qu'il faut tout de suite m'enlever. Donc, il y a l'échec. C'est terrible, parce que je suis tout à fait consciente que ce sont des échecs qui doivent avoir lieu. Mais ce n'est pas tout à fait les échecs dont vous parlez dans votre spectacle. Mais maintenant, je mets des mots en direct sur le processus du comédien. Donc, il faut casser des choses qu'on fait d'emblée, parce que sinon, il n'y aura rien d'autre. Et c'est comme si, moi je pleure toujours mes préjugés, donc souvent dans les répétitions, je suis dans un coin et je pleure, il ne faut pas me consoler, ça ne sert à rien. C'est juste qu'il y a des couches qui tombent, parce que je dois renoncer à ce que je croyais qui était bien, parce que je le pensais vraiment que ce serait bien, et ce n'est pas bien. Et je savais que je saurais que ce n'était pas bien. Et c'est un processus normal, mais qui était long à identifier, donc c'est fait d'échec tout le temps. Par contre, je pense qu'ici à Genève, on peut dire que j'ai la chance, que je suis une comédienne qui a réussi quelque part. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire non plus. Mais parce que, voilà. Alors, ma réussite, c'est qu'on m'engage encore. Et ça, je pense qu'avec le temps, c'est vrai que c'est une réussite. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est que je le constate.
Tu veux dire qui l'a dit? Quelqu'un a dit que tu as
vu? Non, mais tout à coup, tu t'aperçois qu'autour de toi, dans la même catégorie, au casting, il n'y a pas toujours autant que dans la catégorie au-dessous. Donc, durée. Ouais. Dans ce métier, c'est une réussite. Mais je ne fais pas exprès. J'y suis pour pas grand-chose. Mais chaque fois que je suis réengagée, j'ai une peur, parce que ça peut mal se passer. Et ça se passera mal. Et à la fin, ça se passera. Et si on me réengage... Mais ça se passera, puis après, ça s'arrêtera. Et après, ben, suivant le blanc qu'il y a après, et c'est même pas ça qui dépend de... Enfin, il y a de nouveau une possibilité de... réussir en passant par les échecs.
Mais si tu prends, tu as certainement raison sur les échecs successifs dans le processus de création, mais à la fin, quand le spectacle est terminé, il y a la première, à cet endroit-là, toi, tu es capable de ressentir une réussite ou un échec?
Au niveau du spectacle, oui. Ouais. Au niveau de moi-même aussi.
Et c'est, ça, tu le fais à quoi? C'est un succès si dans la presse c'est un succès? Si non. La salle est pleine?
Oui. Alors ça ne dépend pas de moi, puis je suis très contente. Si la salle est pleine et que c'est un succès, c'est super. Moi, je suis contente pour le théâtre, pour l'argent, pour que les gens soient contents, etc. Mais quelquefois, c'est pas du snobisme, mais quelquefois c'est un succès, et je suis un peu triste. Mais parce que je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est fini.
Quelque chose qui est fini dans ton travail.
Un spectacle qui marche, c'est super, mais il faut chaque fois les nourrir en jouant jusqu'au niveau où il est attendu.
D'accord.
Mais c'est maintenant que tu me poses la question que je te réponds, que je me réponds à moi-même.
Ouais.
Mais sinon, il y a des fois des échecs dans des rôles. Ça ne se voit pas forcément trop parce que c'est dans la masse, mais des fois, je n'ai pas toujours l'impression d'y avoir réussi.
Donc, tous ces échecs successifs...
Oui, mais j'ai réussi plein de trucs aussi. Hein. Tu peux parler un peu.
Oui, je vais essayer.
Parce que pour un auteur, c'est différent.
Oui, c'est un peu différent. Je pense que c'est différent parce que il y a certainement aussi ces étapes d'échecs, mais tu es toujours seul face à toi-même.
C'est toi qui le dis, c'est pas bien.
Ben, en général, je pense que c'est très important dans le processus d'avoir conscience si on a réussi ou pas, mais justement, la notion d'échec, elle est très subjective. Il n'y a que toi-même qui peut décider par rapport à certains critères qui sont les tiens.
Si ce que tu as,
c'est même pas tout à fait d'évolution. Tu as un but, quand tu commences à écrire une pièce, tu te dis ça va être ça et ça, et quand elle est terminée, ben, déjà, il faut avoir la capacité d'être capable de dire elle est finie. Et pas quand tu es un auteur et puis que tu n'as pas une date de remise, tu peux rester dessus des années et des années et jamais finir ta pièce. Un spectacle, il y a une date de première en général, si c'est un spectacle. Si c'est un projet ou un projet d'écriture, tu es seul face à toi-même et s'il n'y a pas la date de première.
Sauf quand c'est une commande.
C'est ce qui m'arrive maintenant, je n'écris plus que sur commande, donc en général, j'ai échoué si j'ai loupé la date, si j'ai pas fini au moment où il faut rendre. Mais c'est ça qui détermine pour toi l'échec, c'est de te dire, j'ai pas fait ce que je voulais faire, j'ai pas fait à temps ce que je voulais faire, c'est pas assez radical. Pour moi, c'est un peu le critère, c'est la radicalité de tu avais choisi une option, tu avais choisi une forme, c'est quelque chose que tu avais décidé au départ, un peu comme toi, tu pars avec des préjugés dans ton rôle, tu peux partir avec des préjugés en disant je vais écrire la pièce, je vais enfin écrire un road movie pour le théâtre, par exemple. Tu dis, voilà, ça peut être un projet, et à la fin, quand tu arrives au bout, finalement, ça n'a pas réussi. Ou, je sais pas, un exemple récent, 1913 pour l'anniversaire de la Comédie de Genève, du côté de chez Swann au théâtre, mais avec l'histoire de la comédie en filigrane. Est-ce que c'est réussi dans l'écriture ou est-ce que c'est dans l'écriture que ça a déjà échoué en germe et que la mise en scène a renforcé? Tu vois, en plus, en tant qu'auteur, en tout cas quand tu es que l'auteur et pas le metteur en scène, tu te mets dans les mains du metteur en scène, ou tu mets ton texte dans les mains du metteur en scène, et c'est assez facile de dire c'est la faute du metteur en scène, c'est lui qui a échoué, c'est lui qui n'a pas compris le texte. Donc, c'est aussi...
Comme j'ai joué dedans, on peut peut-être en parler après.
mais dans la... Ouais, bah voilà, peut-être que effectivement ça peut faire partir
dans maintenant que c'est fini.
Ouais, maintenant que c'est fini, que c'est plus de 2 ans en arrière, ouais, à peu près. C'est, je pense que c'est effectivement c'est une question, c'est une facilité, hein, c'est une subjectivité de te dire c'est pas moi qui ai échoué, mais c'est quelqu'un à ma place qui a échoué. Et d'être capable de se dire non, peut-être que c'est moi, de se remettre en question. C'est pour ça que l'échec, pour moi, c'est, de la même manière pour toi, c'est un processus intéressant. Je pense que d'être capable de voir pourquoi on a échoué, à quel endroit on a échoué, c'est extrêmement important dans le processus artistique de radicalisation, hein, c'est-à-dire pour atteindre de plus en plus, pour être de plus en plus capable rapidement aussi d'atteindre à son but, puisque quand on commence à être un peu joué, les commandes, elles se rapprochent, et le temps se raccourcit.
C'est vraiment, on ne fait pas du tout le même métier, toi, tu c'est-à-dire, non, mais c'est intéressant, parce que toi, tu dois inventer toi-même, te documenter, enfin, si, il y a des analogies, mais un autre exemple d'échec, alors, parce que la réussite et l'échec à l'intérieur du processus de travail, c'est presque obligatoire. Mais la réussite, réussir une carrière et tout ça, et réussir sa vie aussi, pour moi, c'est vraiment... je serai sur mon lit de mort si j'ai encore conscience de voir si j'ai réussi. Ma carrière, c'est mon CV, quoi. Je veux dire, j'ai pas l'impression d'avoir des plans de carrière, partir à Paris. Moi, je viens du Valais, toi aussi. Déjà, venir ici, Dieu, c'est quelque chose. Bon, ben, moi, Paris, ça a aussi pu m'arriver. Mais je me voyais déjà, rien qu'aller chez Conforama acheter des meubles, j'avais déjà la trouille, quoi, je suis rentrée à la maison assez vite. J'aime bien aller pour travailler, mais glander à Paris et flipper à Paris, et puis penser qu'il y en a 50 comme moi dans un corridor qui passent le même casting, ça n'allait pas du tout. Parce que je suis à la fois unique et nulle. Donc c'est compliqué. Mais qu'est-ce que je voulais dire?
Mais tu parlais pourquoi tu avais l'impression que c'était vraiment différent ce qu'on faisait.
Oui, parce que alors, la réussite par rapport à une audition, par exemple, c'est pas la même chose que par rapport à un rôle entier que tu fais. Quand tu te prépares pour quelque chose et que tu veux être prise, là il y a des histoires de concurrence qui rentrent en ligne de compte. Quand tout à coup tu as un grand metteur en scène qui vient ici et qui a toute la catégorie qui va se présenter et que tu veux le rôle. Ça m'est arrivé, mais je voulais le rôle et je le voulais mais tellement fort. Ça c'était un truc à réussir. Et je m'étais préparée et j'étais sûre que ce serait moi quelque part. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et en arrivant, j'ai compris que ce ne serait pas moi. J'ai compris la façon qu'il avait de m'adresser la parole, que ce ne serait pas moi. Donc j'avais déjà raté, mais j'ai dû faire quand même.
Mais c'est justement, enfin, c'est le genre d'échec, enfin, je ne sais pas. Hein. Concrètement, tu sais que... Ben, ce n'est pas un échec objectif, tu vois, ce n'est pas quantitatif, ce n'est pas ceci, cela... Oui, enfin, mais tu peux rien y faire, c'est-à-dire que t'as pas échoué. Non, mais t'as pas échoué parce que t'es mauvaise ou parce que t'es juste pas la bonne personne au bon endroit au bon moment.
Je sais très bien pourquoi j'ai échoué, parce que j'avais pas assez de poitrine.
Ah ben, voilà.
Mais je l'ai su après.
Mais c'est tellement, je sais pas.
Mais c'est vexant parce que j'y avais jamais pensé. Pour moi, c'était une histoire pas possible, c'était une naïveté. Je pensais vraiment qu'on allait m'évaluer sur mon mérite et que j'aurais droit à la parole. Enfin, j'ai eu droit à la parole, j'étais très seule, c'était déjà plus la peine. Mais c'est intéressant de voir où ça se passe, la notion d'échec, parce que j'étais désespérée de m'apercevoir que les critères d'évaluation n'étaient pas ceux à quoi je... Enfin, quand les critères changent, puis que tu ne les connais pas, moi je n'y serais pas allée si j'avais su, tu vois. Je suis complètement déviée du sujet.
Non, mais... Est-ce que tu crois vraiment que le maître, enfin si le metteur en scène devrait savoir ce qu'il cherchait? Est-ce que, non, je pense que vous pourrez trouver dans la situation de metteur en scène qui choisit des comédiens ou des comédiennes.
Avec la poitrine?
Non, avec la poitrine, jamais, non. Non, c'est juste que tu... des fois, c'est sûr, enfin moi en tout cas, c'est comme ça. Après, quelqu'un qui choisit sur la poitrine, je pense que peut-être il pourrait anticiper cette question. Mais concrètement, des fois, tu ne sais pas vraiment, c'est peut-être aussi une forme d'échec anticipé, c'est-à-dire tu ne sais pas vraiment de qui tu as besoin pour le rôle. Et ça peut se faire dans le moment de quand la personne dit le texte devant toi pour la première fois.
Oui.
Tu te dis, tu as une révélation. Et moi, ça m'arrive.
Je comprends, mais dans ce sens, je préférerais, tu vois.
Ouais. Mais du coup.
D'être non révélé d'emblée. C'est horrible.
Mais tu as quand même passé l'audition.
Ouais.
Tu as dit le texte.
Oui.
Ouais. Mais comment tu sais que c'était la poitrine, par exemple, ça me trahit.
Parce qu'il ne me voyait pas. Il me regardait plus.
Uh-huh.
Il était déjà plus là. C'était déjà fini avant que ça ait commencé. Uh-huh. C'est horrible.
Et tu ressens ça comme un échec?
C'est intéressant comme échec, parce que tu sais que ça existe. Voilà. C'est un détail, c'est vraiment une anecdote d'échec, mais mais c'en est un, assez cuisant.
Non, parce que moi, la question de l'échec, c'est, je trouve que c'est chez nous, dans nos domaines à nous, où tout n'est fait que de subjectivité. Je trouve ça vraiment difficile de dire qu'on a échoué. Enfin, je veux dire, à part toi-même, tu peux dire que concrètement, tu as échoué par rapport à ta propre subjectivité, mais tu te soumets à tellement d'autres subjectivités concrètement, tu peux dire, bon, bah, ou bien tu les acceptes toutes et puis tu vas vivre en permanence des échecs, ou alors tu te dis, je peux pas définir ce que les gens attendent de moi, je peux pas non plus tout à fait répondre à toutes leurs attentes, donc comment peux-tu dire que tu as échoué? Je ne sais pas, un banquier qui investit de l'argent et puis il n'a pas obtenu à la fin, il peut dire concrètement qu'il a échoué. Mais nous, je me sens assez mal de dire qu'on échoue. Même si on échoue, tu vois, tu peux dire que tu as échoué face à la presse, c'est un four, mais il peut y avoir du public. Je me suis aussi trouvé dans des situations, dans d'autres situations, où tu es dans un spectacle qui est un succès, et moi je me ressens comme un échec, mais pour des raisons absurdes, c'est que je me dis que je suis dans un spectacle que je trouve nul. Et je trouve ça d'autant plus douloureux d'avoir des tas de gens en face de moi qui trouvent ce spectacle génial et qui font une standing ovation. Oui, et moi, je me sens dans un spectacle mauvais. Je trouve ça presque... Et je ne peux pas dire que c'est un échec, c'est une sensation très, très bizarre.
Je comprends ce que tu veux dire, mais ça m'arrive. C'est horrible. Hein.
Pardon. Je suis certain que c'est arrivé.
Ça m'est arrivé, bien sûr. Mais ça m'est aussi arrivé d'être influençable. Donc, que quand tout à coup le public l'aime, je me dis qu'il a peut-être pas tort. Ouais. Et que peut-être il a ses raisons de le trouver bien, que je dois les trouver aussi. Mais ça m'est venu tard, ça. Mm-hmm. Parce que quand j'étais adolescente, j'étais assez prétentieuse. Enfin, et au début d'avoir joué, j'étais assez prétentieuse, je pense. J'ai beaucoup plus de tolérance pour le public maintenant. Pour le public, je pourrais jamais dire qu'il a tort. Mm-hmm. Mais je comprends ce que tu veux dire.
Je parle d'un spectacle, je ne vais pas dire exactement quoi, mais c'était la question de... pour moi, c'était vraiment une expérience. Hein. C'est la première fois que je jouais dans un spectacle comique et je n'avais pas du tout... je trouve ça très, très étrange. Enfin, j'ai trouvé ça très, très étrange d'avoir les réactions du public sur un spectacle comique. Enfin, j'avais quand même plutôt la réputation d'être un tragique ou un pas drôle ou un intellectuel. Et là, de me retrouver dans un spectacle drôle, c'était vraiment... Je dis pas que le public, c'est juste pas ce que je dis, c'est le public à tort, mais c'était une sensation extrêmement étrange, quoi. Déjà de déclencher le rire, c'est déjà très spécial.
Et pourquoi ?
Je sais pas, je me suis jamais tout à fait trouvé dans la situation de déclencher des rires.
Ça vaut le coup une fois dans sa vie.
Ah, c'est clair, mais du jour où je l'ai essayé, c'est un peu comme... Ah si, c'est un peu comme une drogue, je suis d'accord. Ah, ouais. C'est certain que c'est une drogue. Mais ce qui explique aussi ces fameux comédiens... qui joue à la rampe, ou comment on dit, oui. Comment on dit déjà
Toujours devant.
Non, quand on fait des kilotons, comment on dit pour un comédien. Voilà.
Un cabotin.
Un cabotin, voilà, un cabot. Ouais. Et ça, je t'avoue que je comprends de mieux en mieux.
Ah oui.
Cette envie d'aller chercher le rire, le plaisir du public. Ouais. Non, juste pour revenir sur le fantasme, parce qu'il y avait le fantasme
oui,
du
peut-être qu'on est
de l'échec. Non,
on devrait anglais plus, là, ouais. Ça va.
Non, c'était sur la question. Je suppose qu'elle doit être dans le spectacle, la citation. C'est une citation de Beckett. J'ai travaillé pendant de longues années avec Enzo Corman qui cite toutes les cinq phrases quelqu'un. Donc cette citation, je l'ai entendue souvent, qui disait il faut. Essayer, échouer, réessayer pour échouer mieux. Mmh. Et ça, c'est ce que tu disais toi. Et nous, c'est une phrase qu'on accompagne des jeunes auteurs à l'ENSAT, et c'est une phrase qui est très importante, c'est-à-dire surtout si c'est des jeunes auteurs qui sont en train d'écrire leur première pièce. Pour moi, je pense que c'est vraiment important d'aller au bout d'une tentative et jusqu'à l'endroit où tu échoues, parce que c'est seulement à cet endroit-là qu'il va se passer quelque chose de nouveau. On est de nouveau dans cette question de subjectivité, parce que dans les questions qui m'ont été envoyées, on parlait de réussite, de succès, de est-ce qu'un artiste il a du succès que quand il est adulé par les masses, ou je sais pas comment dire ça. Moi je crois que c'est pas des catégories qui fonctionnent pour nous, en tout cas.
En tout cas, moi ça me parle pas du tout non plus. Et je pense que si tu vas au plus juste de ce que tu peux exprimer, même si c'est pour pas trop de monde, c'est bien. Mais moi j'ai vu le spectacle, il y a des choses qui m'ont inspiré. Ça m'a beaucoup amusé. Il y a un monsieur qui dit, moi je vide les salles. Et bien longtemps, j'ai vidé les salles et maintenant je recommence à les vider. Je n'irai pas jusque-là, mais je sais que quelquefois, quand je dis que je fais du théâtre pour me cacher ou pour pas qu'on me voie, les gens ne me croient pas. Mais pourtant, c'est vrai. Et mon mari ne me dira pas, et non, tu déconnes, c'est pas important que les gens viennent, j'ai dit. Mais ils ne croient pas.
Tu dis de cacher dans le sens-là, moi je pensais que tu disais cacher dans le sens de cacher derrière un rôle.
Oui, ça aussi. Ça aussi. Mais les deux choses sont vraies. Ça y est, je me demande.
Non, parce que tu te caches derrière, tu te caches, c'est-à-dire parce que tu te caches parce qu'il n'y a pas de public qui vient voir tes spectacles, ou bien parce que quand ils voient.
C'est-à-dire que si ça marche pas, c'est pas trop grave. Ah, c'est d'accord. Une chose. Et puis si je suis cachée derrière un rôle, je préfère.
Si ça marche pas, c'est pas grave.
S'il n'y a pas forcément trop de monde, c'est pas grave. Si c'est une chose qui est pure. Tu veux. Si c'est une chose que tu as voulu faire vraiment et qui est authentique et qui va jusqu'au bout de ce que tu voulais faire, dont tu es complètement, que tu es complètement derrière à tous les étages, à tous les niveaux.
Dont tu peux être fier.
C'est ton bébé. Là, s'il n'y a pas trop de monde, c'est pas grave parce que c'est toi. Mais pour une comédienne, c'est rare ça. Moi, j'ai encore pas fait de création où je décide de tout toute seule. Peut-être quand ils seront tous morts que j'en ferai. Je veux parler.
Ah, d'accord. Tu as dit tout à l'heure, tu n'étais que comédienne et tu n'étais que comédienne, mais tu es devenue autre chose, excuse-moi, je ne sais pas. Moi qui as dit tout au début.
Non, c'est parce qu'il y a eu. Parce que pendant très longtemps, j'étais comédienne et je ne me posais même pas la question de savoir que c'était mon métier, d'une certaine façon. Parce que gagner sa vie en faisant ce métier, au début, ça m'était. Je savais qu'il y avait que ça que je pouvais faire, parce que ma vie n'avait pas. Je ne savais pas très bien vivre, à dire vrai. Donc ma seule place était dans le théâtre, dans le rôle. Ça s'est transformé petit à petit. Mais au début, c'est devenu mon métier, je voyais vraiment mal ce que j'aurais pu faire d'autre. J'ai procédé par élimination. Ma famille n'est pas du tout dans le milieu. Il fallait que je quitte le Valais. Je suis plutôt. Enfin, c'était compliqué. Je suis venue à Genève, c'était énorme. Je m'accrochais à Genève pour le cadeau. Et puis, après, c'est devenu mon métier. J'ai gagné ma vie avec, mais il y avait des fois où je me sentais tellement mauvaise que j'avais envie de rendre mon salaire. Il y avait des fois où j'étais tellement heureuse que j'avais envie de rendre mon salaire, parce que ça n'avait aucun rapport. Mais je le gardais quand même, parce qu'effectivement, il fallait payer les loyers, et je faisais rien d'autre. J'avais des copains qui pouvaient travailler à côté. Moi, je gagnais ma vie, j'ai gagné ma vie.
Depuis très jeune. Vite.
Oui. Mais j'ai été très, très gâtée au début, et je me suis habituée à ça. Donc, je me suis acheté un répondeur et j'attendais qu'on m'appelle. J'ai beaucoup attendu des fois. Et je ne faisais rien d'autre. Rien d'autre. Donc, il y a des fois où je vivais très mal. Enfin, je ne vivais pas. J'attendais qu'on m'appelle pour revivre. J'étais vraiment une espèce d'emballage qui attendait qu'on lui redonne des choses à rater et à continuer. Et après, ça s'est transformé. Enfin, j'ai vécu deux, trois trucs à côté, quoi. Et tout à coup, il n'y a pas longtemps, hein, vers 50 ans, comme ça, je me suis dit, nom de bleu, c'est mon métier. Et si je ne le fais pas, je ne gagne pas d'argent. Et je dois continuer. Et là, il y a une autre phrase de Beckett qui il faut continuer. Je ne peux pas continuer. Je vais continuer. Et alors ça, je l'ai beaucoup écrite. C'était complètement ça. J'étais complètement en panne, je tombais malade, tout. Et puis je me rendais compte que je voulais. C'est un gros échec, ça. Ça, c'est le plus gros échec. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'il fallait que je prenne un virage complètement différent. Et puis, je me suis mise à donner des cours. Et de mettre des mots sur ce qui est mon métier et d'essayer de le transmettre, ça m'a redonné le sens de la créativité, d'une certaine façon. Parce que je comprenais que c'était quand même de l'art, parce que je n'en avais pas vraiment conscience. Non, mais c'est vraiment, je suis tardive, tu vois. Vraiment... C'est un peu tard pour se rendre compte de tout ça, mais c'est mieux que jamais. Et du coup, ça a redonné des envies de création au métier de comédienne. J'ai l'impression que ça me donne plus de consistance, plus de choix, plus d'indépendance et plus de force. Plus de joie, plus d'envie, plus de désir et plus la créativité, elle est là parce que j'ai plus de manettes en main pour inventer des choses, et de voir si ça marche, ça me donne des envies, des idées. C'est pas très palpitant, mais c'est plutôt une réussite. Ça, c'est les processus, je crois, l'échec et la réussite, voilà. Parce que sinon, c'est un peu des mots, quoi.
Une des questions qu'il nous posait, c'était de savoir si on pouvait faire se rendre compte de la réussite d'un artiste parce qu'il vivait de son art. Donc toi, tu apparemment, clairement, tu as vécu de ton art depuis déjà très tôt.
Jusqu'à ce que j'ai des enfants.
C'est là que tu as arrêté de jouer?
Pas du tout. J'ai dû arrêter de jouer, mais parce que je préférais m'en occuper pendant un moment. Mm-hmm. Et ça a été un choix. Heureusement, j'étais pas seule. C'est un luxe aussi. Mm-hmm. Mais j'aurais pas pu élever les enfants toute seule avec ce que je gagnais. Mm-hmm. Et puis c'est un des métiers bizarres où on gagne de moins en moins. Enfin, je veux dire, les salaires descendent,
ouais.
Les périodes de répétition se restreignent, ouais, alors que dans plein d'autres métiers, ouais. On a un sous-main d'abord en papier, ensuite en cuir, ensuite en or.
Oui.
c'est pas grave, mais tout à coup, tu t'en aperçois parce que tu as des copains qui ont une ceinture Chanel, puis une blouse gorge ouverte, et puis tu as toujours un vélo, quoi. Ouais.